The accused deliberately and maliciously plotted and engineered the commission of acts of violence and destruction throughout the country directed against the offices and homes of state and municipal officials, as well as against all lines and manner of communications.
The planned purpose thereof was to bring about in the Republic of South Africa chaos, disorder and turmoil, which would be aggravated according to their plan by the operation of thousands of trained guerrilla warfare units, followed at the appropriate juncture by an armed invasion of the country by military units of foreign powers.
Dans l'actualité des idées aujourd'hui, Afrique du Sud, que reste-t-il de leur combat? Au procès de Rivonia de 1963, il y avait Nelson Mandela et ses co-accusés, 8 camarades de lutte, membres de l'ANC. Ils risquaient la peine de mort, ils ont finalement été condamnés à la prison à vie. Présenté à Cannes, en salle mercredi, un documentaire, Le procès Mandela et les autres, donne aujourd'hui à entendre leur voix et celle des autres parties en présence, avocats de la défense, procureurs et présidents de la cour. Le procès n'a pas été filmé, il n'existe donc aucune image, mais les audiences ont été enregistrées. 256 heures d'archives sonores, la mémoire vivante d'un procès historique, et c'est la force de ce film réalisé par Gilles Porte et Nicolas Champeau, notre premier invité. Bonjour Nicolas Champeau.
Bonjour.
Comment vous avez pallié l'absence d'image pour réaliser ce film ?
On s'est tourné très rapidement vers l'animation, d'abord parce qu'il y a l'épouse d'un accusé, Hilda Bernstein, qui a croqué des moments du procès, des croquis bien réalisés, un formidable coup de crayon qui font un peu penser au dessin de presse. On s'est dit, tiens, ça peut être un point de départ. Puis ensuite, on parle de la lutte contre l'apartheid. L'apartheid, c'est la séparation, le développement séparé, tout ça. C'est toute l'organisation de la société qui est motivée par cette séparation. Et donc, ça commence notamment par l'urbanisme. L'urbanisme, ce sont des plans, ce sont des dessins. Et puis un dessin, ça peut révéler, exprimer, mettre en valeur de l'émotion. Il y a des passages où l'émotion est tellement forte, on se prend tellement une claque durant le procès, qu'on a dit à Ourde, l'animateur, qui ne demandait que ça, de faire des dessins abstraits pour se mettre au service du son, au service du drame.
Et ça fonctionne, un dessinateur néerlandais pour un film très graphique et extrêmement sonore, en noir et blanc. Ça s'imposait presque dans la réalisation de cette animation. Avec nous également Jean Guilouanneau, il a écrit la biographie de référence sur Nelson Mandela, traduit son autobiographie, en plus de tous les essais et romans des plus grands auteurs sud-africains. Et récemment, Les lettres de prison de Nelson Mandela, sorties cet été chez Robert Laffont, à l'occasion du centenaire de la naissance du leader de la nation arc-en-ciel, prix Nobel de la paix en 93. Bonjour Jean Guilouanneau.
Bonjour.
Vous avez vu le film ?
Oui, j'ai vu le film hier. Oui.
Ça a dû faire remonter aussi pour vous un certain nombre de souvenirs et de visages.
Très grosse émotion. D'abord le texte, parce que je retrouvais la voix de Mandela, qui est une voix qu'on reconnaît immédiatement. Et puis les dessins sont quelque chose d'insensé, je trouve. Et ils apportent, même dans les personnages, par exemple, quand on appelle l'accusé Mandela, sa tête apparaît et on le reconnaît immédiatement avec sa chevelure très dense et sa raie au milieu. Et chaque personnage est comme ça. Et avec ce qu'on disait à l'instant sur ces dessins un peu abstraits qui donnent une image insaisissable de cette Afrique du Sud de l'apartheid.
La première image ou la première sensation peut-être qui frappe en regardant votre film, c'est l'épaisseur humaine de ces hommes qui n'ont pas cessé d'être à la hauteur de l'histoire. Mandela, mais pas que, les 8 autres également. Et aujourd'hui encore, cette lumière dans leurs yeux des survivants que vous avez pu rencontrer, Nicolas Champeau, avec Gilles Porte, ces sourires. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de haine dans leur regard, il y a une incroyable force de vie. Ils étaient réellement animés par un idéal et on a l'impression qu'aujourd'hui encore, ils ne l'ont pas perdu cet idéal. Malgré 27 années de prison, malgré ce qui a pu se passer aussi après, dans les années 90 et les années 2000.
Alors, quelque part, tout le concept de Mandela et de ses camarades de lutte repose sur ce refus de l'amertume et ce refus de la revanche, parce que ils ne veulent pas se venger, ils veulent mettre sur pied une Afrique du Sud arc-en-ciel réconciliée. C'est dit durant le procès, lorsqu'ils font la promotion de leur projet, parce qu'ils profitent de ce procès pour dénoncer l'apartheid, mais faire la promotion de leur projet et de leurs organisations. Et c'est vrai que Katrada, je pense aussi à Mlangeni, l'accusé numéro 10, on m'a dit d'ailleurs lors d'un débat à Pau la semaine dernière, c'est marrant, ce monsieur, quand il parle de choses extrêmement douloureuses, il sourit. Et en fait, il sourit parce que c'est une méthode, c'est-à-dire que si l'on est amer, l'autre a gagné. Le camp d'en face a gagné. Et si l'on accepte de tourner la page et de reconstruire, alors tout le monde a gagné.
Vous les avez connus, croisés, ces hommes, Jean-Guy Loineau?
J'en ai croisé trois. Mandela d'abord, à Paris, deux fois, quand il est venu à Paris. Et puis j'ai croisé alors quelqu'un qui m'a beaucoup touché, qui est Govan Mbeki, le père de Thabo Mbeki, qui sera président après Mandela. Et j'étais en Afrique du Sud, d'ailleurs avec une journaliste de France Culture qui s'appelait Jacqueline Martin, et j'ai raconté la vie de Mandela dans tous les lieux où il a vécu. Et à l'université de Forterre, la secrétaire générale de l'université nous a dit « Ah, oh, mais Govan Mbeki habite tout près, à Port-Elisabeth ». On est allé le voir, c'était un homme adorable, et il m'a dit une phrase que j'ai pas oubliée, il m'a dit « At the end of the day, we won ». À la fin de la journée, ou à la fin du voyage, on a triomphé. Et c'était un vieil homme de 80 ans, qui était, qu'on vient de le dire à l'instant, plein d'une sorte d'optimisme extraordinaire sur l'Afrique du Sud, de nouvelles qui étaient en train de se créer.
Quels sont le profil des autres accusés, Nicolas Champeau? On va tenter de poser un peu le décor de ce procès qui fait l'objet de votre film aujourd'hui. Parmi les survivants, ceux qui étaient encore vivants au moment du tournage et que vous avez pu croiser, il y a Dennis Goldberg, il y a Andrew Mlangeni et il y a Ahmed Katrada, l'Indien, comme on l'appelait. Et puis vous avez aussi retrouvé les deux avocats de la défense, Winnie Mandela, qui témoigne dans ce film. C'était donc avant sa mort cette année au printemps, la femme ou l'ex-amoureuse de l'Indien qui est là aussi pour témoigner, et puis le fils du procureur avec un témoignage extrêmement fort où il raconte et presque est bouleversé par le zèle dont a fait preuve son père dans ce procès, lui le juif pratiquant, enrôlé presque dans cette parodie de justice et qui se bat pour cette grande cause nationale avec lequel il fait corps. Hein.
Mais on a des personnages variés en fait dans un procès. C'est l'une des raisons pour lesquelles un procès se prête bien à un traitement cinéma. Pour un documentaire qui est presque écrit comme une fiction, parce que rien que dans la salle du procès, on a une scénographie judiciaire en fait, on a une dramaturgie aussi, on a des personnages qui sont méchants, zélés, vous l'avez dit, c'est le procureur, et Ourde, le dessinateur, s'amuse de ce personnage avec ses effets de manche qu'il exagère. Le procureur a l'air d'une chauve-souris, d'un corbeau. On a les accusés qui sont des héros et qui quelque part représentent la diversité de l'Afrique du Sud, parce qu'on a un Indien, on a Dennis Goldberg, juif communiste d'origine lituanienne, on a Walter Sisulu, métis, peu éduqué, et puis on a un personnage comme Mandela, qui est issu d'une lignée royale Tembou, éduqué, et articulé, excellent orateur, qui a été avocat. Et donc voilà un petit peu les protagonistes principaux. J'ajouterais, parce qu'il y a des coups de théâtre, des revirements, des retournements dans un procès qu'on exploite dans le film, il y a les traîtres qui n'étaient pas prévus et qui dénoncent leurs camarades. Puis aussi, vous faites bien de le dire, il y a les conjoints, les enfants, parce que selon moi, et c'est une analyse que partage Gilles Porte, quand on s'engage à 100% dans une lutte et qu'on prend des risques, la cause peut être louable, mais c'est quelque part un geste un petit peu égoïste. Ceux qui souffrent réellement, ce sont les conjoints, ce sont les enfants qui vivent le procès dans l'angoisse. Alors que nos accusés survivants sont des personnages qui s'effacent volontiers, qui sont humbles, qui ont tendance à dire, nous, on ne faisait que notre devoir, tout le monde aurait fait la même chose. Et il faut 4-5 heures d'interview avant qu'ils commencent à donner et à admettre des choses intimes et à pleurer devant nos caméras. Mais ils cachent cette souffrance au service du collectif parce que c'était une lutte collective. Or, pour les enfants, c'était beaucoup plus difficile.
Mandela était le meilleur orateur, vous l'évoquez, Nicolas Champeau, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sera choisi par les autres aussi pour porter la parole de tous les accusés. On va écouter cette plaidoirie qui lui a donc été confiée en anglais, extrait de ces fameuses archives que vous mettez aujourd'hui en film.
During my lifetime, I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Voilà, il n'y a pas de reconstitution. Ça, c'est la voix de Nelson Mandela en avril 1964, dans l'enceinte de cette cour de justice, dans l'enceinte de pendant la tenue de ce procès de Rivonia. C'était le nom de la cache qui se tient donc entre 63 et 64.
Rivonia, c'est une petite ville qui est au nord de banlieue, au nord de Johannesburg. Et ils étaient dans une ferme à la campagne très éloignée qui s'appelait les Lisliff.
Voilà, merci pour ces précisions, Jean-Guy Loineau. Après avoir épuisé les voies légales, l'ANC va être interdit quelques années plus tôt. Ils vont tous passer dans la clandestinité et c'était ça, comme dira Mandela, ou accepter de continuer à vivre dans un état d'infériorité. Ils vont donc faire le choix de défier le gouvernement. De ce procès pour sabotage, ils ont ensemble décidé de faire un procès politique, Jean-Guy Loineau. C'est vrai que c'est le procès de 9 homme, mais c'est aussi le procès de l'apartheid, le procès de l'Afrique du Sud à ce moment-là.
Bien sûr. Mandela avait dit quand ils utilisaient les moyens légaux d'opposition, il disait « j'avais l'impression de frapper à une porte qui restait obstinément fermée, j'ai décidé de faire sauter la porte ». C'est-à-dire qu'il crée un mouvement de lutte armée. Alors il faut savoir qu'il quitte l'Afrique du Sud en janvier 62, et qu'il fait le tour de l'Afrique à une époque où la décolonisation est en marche, et il rencontre quantité de chefs d'État, et il va à Alger, où il rencontre les responsables en mai 62, donc juste au moment où se termine la guerre d'Algérie, et où le nouveau pouvoir entre en fonction en Algérie. Et il rencontre en particulier Ben Bella, et il est très impressionné parce qu'il visite aussi un camp d'entraînement du FLN, et il comprend que la lutte armée doit s'organiser d'une façon très particulière, et c'est ce qu'il va faire en rentrant en Afrique du Sud. Il rentre en juillet 62, mais il est arrêté en août et il ressortira 27 ans plus tard. Mais le mouvement Umkhonto et Sisoué qu'il a créé, MK, va se mettre en route. Et il a théorisé la violence en disant qu'il y a 4 étapes. Il y a tout d'abord le sabotage, ensuite il y a la guérilla, après il y a l'attentat et enfin il y a la révolution. Bon, ils sont pas allés très loin, un peu au-delà du sabotage, et ils ont fait sauter des pylônes électriques, ils ont fait, etc. Mais c'est cette lutte armée qui va entraîner, quand ils sont tous arrêtés, quand la police découvre la ferme de Lisliff, là, le procès va devenir un procès de vie ou de mort. Et c'est l'enjeu essentiel. D'ailleurs, il y a une des phrases, la dernière phrase de Mandela, dit « J'ai toujours été contre l'oppression des Blancs par les Noirs et des Noirs par les Blancs. » Et c'est un idéal auquel j'ai consacré ma vie et pour lequel je suis prêt à mourir. Et son avocat lui dit « Non, non, dis pas ça parce que tu les autorises à vous pendre. Il faut ajouter quelque chose. » Et il ajoute « If needs be, si c'est nécessaire, pour lequel je suis prêt à mourir. » Mais c'est vraiment une petite... Mais on sent dans ce procès et dans le film là que on parlait à l'instant du procureur qui est là comme une espèce de spectre de mort terrible. Et ça rend bien compte de l'atmosphère de ce qu'était ce procès historique s'il en est un.
Ces mots, Nicolas Champeau, qu'il reprendra à sa libération et vous le montrez aussi dans le film exactement tel quel 27 ans après, comme si ça n'avait été qu'un temps suspendu et qu'il reprenait l'affaire là où il l'avait laissée à son entrée en prison, donc après, à l'issue de ce procès, où ils ne seront pas condamnés à mort. Indulgence, dira le président de la Cour, ce sera la seule indulgence que la Cour accordera, mais condamnés à vie. À la prison, Nicolas Champeau. On a entendu le chef d'accusation des actes de sabotage, des actes violents contre le pays avec l'objectif de répandre le chaos, le désordre, la tourmente en Afrique. On a passé cet extrait en ouverture de l'émission. Quelle sera leur défense ?
Alors leur défense est assez simple. Ils disent, nous on va faire le procès de l'apartheid. On a une tribune. Vous l'avez dit, les organisations auxquelles ils appartenaient étaient interdites. Ils étaient également personnellement bannis quand ils n'étaient pas assignés à résidence ou clandestins. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de parler à la presse, ils n'avaient pas le droit d'organiser des réunions publiques, ils n'avaient pas le droit de faire imprimer des tracts. Et dans ce contexte, forcément, c'est très dur de mobiliser, de recruter, de faire circuler son projet politique. Et voilà que, sous prétexte d'organiser un procès médiatisé pour dire au reste du pays et même au reste du monde, voilà, nous allons décapiter le mouvement de résistance et montrer au monde entier que nous allons emprisonner ces terroristes rouges barbares qui nous menaçaient, en fait, l'État apartheid leur fournit des reporters dans la salle, des reporters du monde entier. Il y a aussi sur les bancs du jury, parce qu'il n'y avait pas de jury, des ambassadeurs des Pays-Bas, de France, de Grande-Bretagne, des États-Unis, qui ne connaissent pas très bien finalement Mandela, qui ne connaissent pas vraiment son projet, et qui découvrent un homme finalement courtois, réfléchi, articulé, qui expose son projet, qui est somme toute raisonnable. Donc ce procès, c'est presque un cadeau pour eux. Et donc, ils s'en emparent. À ceci près que l'accusé numéro 5, par exemple, Ahmed Kathrada, le dossier contre l'accusation contre lui est complètement vide. C'est-à-dire que Mandela et Goldberg, eux, sont vraiment dans de sales draps, parce que les pièces à conviction contre eux sont énormes et ils risquent vraiment la peine de mort. Mais Kathrada est solidaire des autres et il aggrave son cas durant le procès, alors que s'il avait opté pour une défense personnelle sur mesure, il aurait très bien pu être acquitté. Mais il reste avec les autres. C'est aussi pour cette raison qu'il ne fait pas appel. Donc le collectif, le devoir collectif et la solidarité pour eux ne sont pas du tout de 20 mots. Ils mettent tout dans ce procès parce que c'est une plateforme.
Il y en a un qui va sortir un peu avant les autres, c'est Dennis Goldberg. Ça lui sera un peu aussi reproché, le fait de s'être désolidarisé, cette petite trahison. Mais il va quand même derrière aussi œuvrer pour que les autres soient libérés.
Alors Dennis Goldberg, c'était pour lui une double peine, parce que non seulement il a été condamné à la prison à vie, mais et il devait servir sa sentence dans une prison réservée aux détenus politiques blancs. Et lui, son combat, c'était l'Afrique du Sud pour tout le monde et tout le monde ensemble. Donc c'est celui qui a le plus souffert, je crois, ou c'est celui qui le dit le plus et qui est le moins pudique dans son ouvrage, parce qu'ils ont tous écrit des livres. Lui a énormément souffert dans cette prison. Et quand l'opportunité se présente, il accepte d'être élargi, alors que Mandela avait plusieurs fois refusé d'être libéré, parce qu'on lui demandait, on te libère seulement si tu résistes à la lutte armée. Lui avait refusé. Mais Dennis Goldberg est extrêmement émouvant dans le film. C'est vraiment un bon camarade. C'était une rencontre formidable. Il a un côté un peu viril, vaste à poche comme ça, mais il est très tendre en fait.
Oui, quand il raconte cette scène avec, avec sa mère, qu'il a revue encore une fois, et qui lui dit, alors vous devez mieux connaître les mots, j'ai peur de les écorcher, qui va reconnaître son fils, mais qui pour la première fois ne le voit pas comme un fils, mais comme un camarade. En tout cas, c'est ce que lui dira après, c'est la première fois que ma mère m'appelait comme ça, elle était fière du combat qu'il avait mené. Je vous propose d'écouter encore un extrait de ce procès, 1963-1964, le procès de Rivonia avec Nelson Mandela et ses 8 co-accusés. Ici, c'est Ahmed Katrada, l'Indien, qui avait pris un surnom portugais, Pedro, voilà, c'était son nom de scène, entre guillemets. Il raconte ici quand il a pris et comment il a pris conscience des inégalités de la ségrégation en cours dans son pays, l'Afrique du Sud.
My Lord, to a non-European leaving South Africa and going to Europe, it's like entering a new world. My very first impression was when I saw at the airport in London Europeans scrubbing the floor.
Anyway, you were able there to attend the theater, ballet, opera.
Well, even to attend a restaurant. I mean, to have a cup of tea in a restaurant.
That you can't do.
It was the first time in my life that I could walk into a restaurant and have a cup of tea.
On n'a pas voulu traduire ces extraits de votre documentaire, Nicolas Champeau, pour entendre leur voix, et c'est la force de ce film justement. Mais peut-être, Jean Guilloineau, avec votre aide et par vos soins, vous demandez de nous raconter ce qui se joue dans cette scène où il raconte son voyage à Londres et sa prise de conscience.
Et oui, c'est ça. Il découvre tout d'un coup que le monde peut être différent. Il arrive à Londres et on peut, comme il le dit, prendre une tasse de thé dans un restaurant. C'est très curieux parce que dans...
Et où il voit des blancs faire le ménage,
ouais, voilà,
dans l'aéroport.
Et d'ailleurs, Mandela, lorsqu'il fait son voyage clandestin à l'étranger en 62, il arrive dans une ville, alors je crois que c'est Addis Abeba ou chose comme ça, et pour la première fois de sa vie, il s'assoit à une terrasse de café et il y a des blancs et des noirs côte à côte. Et ça ne lui est jamais arrivé dans la vie. Et il a comme une sorte d'émotion. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que Mandela, entrant en prison, n'abandonne pas la lutte. C'est très important. Et le seul moyen qu'il a, c'est les lettres. Il écrit à tout le monde. Il écrit à sa famille, bien sûr, à ses amis. On découvre dans sa correspondance qu'il a des amis indiens, universitaires, médecins, des noirs, des blancs, des métis. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en prison, dans la nébuleuse de ses amis et de ses connaissances, il vivait déjà hors de l'apartheid. C'est quelque chose de très impressionnant dans sa correspondance. Et l'autre aspect, c'est que en prison, il reste un résistant. Alors il écrit au directeur de la prison quand ça ne va pas, il écrit au directeur des affaires pénitentiaires, au ministère de la Justice pour se plaindre à l'échelon supérieur, puis au ministère de la Justice, puis au président de la République à qui il donne une leçon d'histoire de l'Afrique du Sud. Et on sent qu'autour de lui, il est l'élément de révolte. Et tous ses camarades sont autour de lui. Il écrit même son autobiographie qui sera découverte, etc. Bon, qui sont avec des épisodes assez curieux. Et il n'a pas cessé le combat, jamais.
Avec cette
Et la correspondance pour ça est une extraordinaire témoignage.
Un correspondant qui a donc été publié mondialement. Hein. Ça a été une sortie mondiale, ici en France, par Robert Laffont. Ces lettres de prison de Nelson Mandela qui sont ressorties cet été et que vous avez traduites, Jean Guilloineau, avec une anecdote que vous avez racontée à cette occasion. C'est que parmi les lettres qu'il envoie, il en envoie une aussi au directeur de prison, parce que ces lettres évidemment ont été relues et censurées, celles qu'il envoyait vers l'extérieur. Et il a quand même le culot de dire au directeur directeur que ce serait bien de choisir des censeurs avec un niveau culturel un tout petit peu plus élevé.
Parce qu'ils ne comprennent rien aux lettres et ils censurent n'importe comment. Alors choisissez des africanaires ou qui parlent l'anglais correctement et qui sont capables de juger. C'est étonnant, ça.
France Culture, en compagnie du traducteur et écrivain Jean Guilloineau et de Nicolas Champeau, réalisateur du Procès Mandela et les autres, un film documentaire à voir qui sort en salle mercredi après avoir été présenté au printemps dernier à Cannes. France Culture, 13h22.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
À sa sortie, Nelson Mandela deviendra une icône réellement, laissant un peu dans l'ombre quand même ses autres combattants co-accusés pour l'égalité. On se souvient de cette lettre écrite par l'écrivain Bretton Breitenbach, assez terrible, où il jugeait obscène la manière dont tout un chacun, ancien président et autres politiciens, vaniteux, égocentriques, je le cite, starlet et top modèle gavé de coke, musicien à l'esprit étroit et à la morale de circonstance, représentant futile de la jet-set internationale, se pâme devant toi, en parlant de Nelson Mandela, comme devant un nounours exotique. C'était une lettre qu'il lui avait adressée face à cette iconisation de la personnalité de Nelson Mandela. Cette lettre, elle avait un titre qu'on peut reprendre pour cette émission. Mandela, qu'as-tu fait de ton pays? Qu'a-t-il fait? Contre son gré, peut-être, très probablement inconsciemment.
Aussi, oui, parce que Bretton est un personnage. Il a lui-même fait, je crois, 7 ans de prison, en particulier dans la prison de Portsmouth, où Mandela est allé après Robben Island. Et Bretton, c'est un pur Bretton. Il ne transige avec rien. Ce qui lui a d'ailleurs valu beaucoup d'ennuis dans la vie. Il y a une anecdote assez étonnante entre Mandela et Bretton. Quand Mandela est venu la première fois en France en juin 96, je crois, Bretton et Daniel Mitterrand sont allés accueillir Mandela à l'aéroport. Et quand Mandela a vu Bretton, il lui a dit « Je suis venu te chercher pour te ramener à la maison ». Voyez, ça c'est Mandela dans son rapport aux êtres personnalisés avec beaucoup de politique bien sûr, mais aussi beaucoup d'humanité dans ce qu'il fait.
L'image et l'iconisation de Mandela a été accompagnée et accentuée par le régime apartheid au final. L'intitulé officiel du procès, c'est l'État contre Mandela et les autres. Ce qui n'est pas très sympathique pour les autres, mais les autres décident collectivement de mettre en avant Mandela. C'est-à-dire que c'est lui qui va lire le discours de politique générale du mouvement lors du procès. Cizulu préfère s'effacer pour que Mandela, qui est un bon orateur, qui est avocat, exprime et décline mieux les idées du mouvement. Mais par la suite, le fait qu'il était interdit d'avoir sur soi une photo de Mandela a contribué à cette iconisation, a contribué à ce que plus jeunes nous regardions les concerts de Wembley, Free et Mandela. On me disait d'ailleurs qu'en Grande-Bretagne, il y avait des gamins qui pensaient que Free, c'était le prénom de Mandela. C'est libérer Mandela, Free Mandela. Donc il a réussi à capter, à centraliser la lutte contre l'apartheid, à la populariser autour de son nom. C'était une technique.
Et aujourd'hui, Nicolas Champeau, qu'en reste-t-il? Nelson Mandela absent des programmes scolaires, Nelson Mandela critiqué de ne pas avoir tout résolu. Aujourd'hui, on sent que l'Afrique du Sud reste une démocratie fragile, que le racisme n'a pas disparu, que la ségrégation n'a pas disparu. Pourquoi, contrairement à ce qu'a dit Obama, les mots de Madiba ne sont plus une boussole dans cette mer de changement?
Alors il y a tout de même, parce qu'on est en Afrique, encore des élections libres, justes et transparentes en Afrique du Sud, avec une presse libre et exigeante, qui demande régulièrement des comptes à ses dirigeants. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de scandales de corruption sous la présidence, notamment de Jacob Zuma. Et il y a donc, cela favorise l'émergence d'hommes politiques un petit peu populistes, qui disent finalement Mandela nous a trahis parce qu'il a trop concédé aux Blancs alors qu'il souhaitait mettre en sur pied une Afrique du Sud réconciliée, et que les déséquilibres hérités de l'apartheid sont encore présents, parce que les terres les plus fertiles appartiennent encore aux Blancs, le pouvoir économique est encore entre les mains des Blancs, même s'il y a une forte émergence d'une classe moyenne noire. Mais pour les jeunes, ça ne va pas assez vite. Donc certains sont tentés de dire « Mandela, tu nous as trahis, ça fait 25 ans que l'apartheid a été démantelé, mais de fait, il est encore là ».
Le film va sortir en Afrique du Sud en décembre. Quelles leçons tirées de ce procès, ou quelles leçons espérez-vous voir tirées de ce procès, Jean Guillouanneau ?
Ce qui est très difficile dans la situation historique de l'Afrique du Sud, c'est qu'il y a eu une colonisation double et très ancienne. Une colonisation hollandaise qui commence au XVIIe siècle et une colonisation anglaise qui arrive au XVIIIe siècle, qui crée deux groupes de blancs très antagonistes. La guerre des Boers est là pour le préciser. Et il y a toujours, mais ça fait une population extrêmement importante et de gens qui, comme les Afrikaners, c'est-à-dire les descendants des Hollandais, n'ont pas de territoire de repli. On pense toujours à l'Algérie, avec les drames que ça a entraîné, mais les pieds noirs d'Algérie avaient une possibilité de retour quelque part, même si, je ne veux pas m'étendre là-dessus, même si ça a été terrible, c'était la France. Les Afrikaners d'aujourd'hui ne parlent plus le hollandais, non, pour certains n'ont plus aucun rapport avec la Hollande, ni familial, ni personnel. Et quant aux Anglais, ils appartiennent à une culture internationale. Alors, l'apartheid a créé, par exemple, 83% des terres arables étaient aux fermiers blancs, et les Noirs ne pouvaient disposer que du reste. On a l'exemple à côté du Zimbabwe qui a été une catastrophe alors que la situation était beaucoup moins grave. Aujourd'hui, il faudrait une énorme énergie, une énorme bonne volonté pour que les choses s'arrangent progressivement en Afrique du Sud. On vient de le dire, il y a eu avec Jacob Zuma une période assez négative dans cette histoire récente. Donc on peut espérer qu'un homme comme Cyril Ramaphosa, qui était très proche de Nelson Mandela, fera avancer les choses dans l'histoire.
Et d'où l'importance du travail de mémoire auquel contribue votre film, Nicolas Champeau, réalisé avec Gilles Porte en salle mercredi, bientôt diffusé sur Arte aussi, chaîne partenaire. Le procès Mandela et les autres, un grand merci à vous d'être venu nous en parler l'un et l'autre. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table qui a lancé avec moi cette semaine, à Henri Leblanc et à Oriane Delacroix, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph, à Maya Neskovic avec Laura Dutèche-Pérez, à la réalisation aujourd'hui Marie Placet avec Alex Dand. Très bel après-midi à tous sur France Culture.